بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاء الإسلام. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de consacrer un peu de temps pour apprendre sa religion, pour apprendre son dîn. C'est là un grand bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal de donner la possibilité à ses ibad, à ses serviteurs, de se déplacer pour faire leur salat en congrégation. Et c'est là un bienfait encore plus important que ensuite leur donner la possibilité de s'asseoir quelques instants, apprendre la religion, comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal, comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de les mettre en pratique, de les faire vivre dans notre vie, afin que notre relation avec Allah Azza wa Jal s'améliore jour après jour. Que de jour après jour, nous nous rapprochons d'Allah, nous nous rapprochons du Jannah, nous nous éloignons de la colère, du mécontentement d'Allah Azza wa Jal, et on s'éloigne du Jahannam. Il est extrêmement important de recadrer son intention, son niya, et d'être le plus mukhlis, le plus sincère possible. Quand on s'assoit, on assiste à un majlis, une assemblée de din, on fait en sorte d'être attentif, on écoute avec beaucoup d'humilité, avec l'envie de comprendre, l'envie d'apprendre, et intérieurement on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner, de nous donner à tous tawfiq, c'est-à-dire de nous accepter pour mettre en pratique ces enseignements, qu'on puisse les faire vivre dans notre vie. C'est ça l'objectif des majalis de ilm. Et on garde en tête cette récompense que notre prophète alayhi salat wa salam avait citée pour toutes les assemblées religieuses, c'est qu'à l'issue de l'assemblée, les anges qui étaient présents vont rapporter à notre Seigneur, et Allah sait mieux qui sont les personnes présentes dans cette majlis, de cette assemblée, et à l'issue de la récompense qu'Allah Rabbul Izzah accorde à chaque personne, ceux qui étaient attentifs, même ceux qui étaient inattentifs, ceux qui écoutaient avec concentration, ceux qui somnolaient aussi. Ça c'est le karam, la générosité d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est tellement satisfait des gens qui consacrent un peu de leur temps pour apprendre la religion, que toute personne qui a fait l'intention, même s'il n'a pas accompli ensuite l'action de manière parfaite, on n'aura jamais le même degré d'attention qu'Abu Bakr, qu'Umar, d'Uthman, Ali. Quand on avait vu le hadith Jibril et qu'il y avait les sahaba autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez imaginer la dévotion et la concentration des sahaba pour écouter la parole, pour écouter les explications du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais jamais nous on aura le même degré d'implication. Ça, c'est clair, sans le moindre doute. Jamais non plus une personne va intervenir, un khatib ou un alim ou un fundi, qui aura le même investissement non plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes tous en décalage avec l'époque prophétique, mais on essaie de faire de notre mieux. Ça, c'est important. On est loin. On est loin d'Abu Bakr, de Umar, de Uthman, de Ali, sur le plan temporel, ça fait des centaines d'années. On est loin également sur le plan spirituel. On n'a pas un millième de poissons de iman et de sincérité de ces billets de sahaba. On est loin également en termes de istislam lillah, de soumission à Allah Azza wa Jal. Nous, on accomplit des péchés au quotidien, qu'Allah nous pardonne. Il n'y a pas une personne de cette assemblée qui peut lever la main et dire que je jure par Allah que depuis que je me suis réveillé Fajr jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait un péché. Ça, c'est impossible. Autrement, on serait des malaïka. Autrement, ce ne serait pas Ibrahim, Riyad, Ishaq, Abdullah, Luqman. Ce serait Jibril, Mikaïl, Israfil, Israël et Ridwan et Malik. On serait des malaïka. Mais non, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres humains avec des qualités, avec des défauts, avec de la sincérité parfois, avec de la motivation et parfois une baisse de motivation. On fait de bonnes choses, alhamdoulilah, et qu'Allah Rabbul Izzah accepte les bonnes choses qu'on accomplit. Mais il y a des fois aussi où on fait des péchés, on fait des mauvaises choses. Il y a des fois où on va faire des péchés avec les yeux. Il y a des fois où on va faire des péchés avec les oreilles. Il y a des fois où on va faire des péchés avec la langue. On va dire des choses pas bien. On va parler sur notre frère en islam. On va le critiquer en son absence. On va dire des paroles désobligeantes. On va essayer d'atteindre son izzah, son honneur auprès des gens en le critiquant. Il y a des fois, on va dire des paroles qui vont vexer notre frère en islam. Il y a certaines personnes qui sont très fiers d'eux. Ils disent que moi, comme il y a l'affaire Poudim, il dit en face.
Il dit la vérité. On va rappeler ça, je ne sais pas si c'était ici ou dans une autre assemblée. Certes, il y a des gens qui sont très fiers d'eux parce qu'ils sont francs. Ils ont un franc parler. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ce qui est bon, c'est que bon, moi, il n'est pas hypocrite. Mais ce qui est moins bon, c'est que parfois, en étant franc, en disant les choses comme elles le sont, combien de cœurs on a déjà cassé, combien de personnes on a déjà vexées, combien de mu'mines on a déjà attristées. Et le cœur du musulman a plus de valeur pour Allah Azza wa Jal que la Kaaba. La valeur du musulman pour Allah Azza wa Jal. Donc, nos péchés, Allah Musta'an. On ne peut pas compter, on ne peut pas énumérer le nombre de péchés qu'on a cumulés depuis ce matin. Et si on commence à compter depuis la semaine dernière, depuis un mois, Allahu Akbar, qu'Allah ait pitié de nous, baisse. On n'a rien d'autre à demander, qu'Allah ait pitié de nous et que malgré ces saletés qu'on a sur nos cœurs, malgré les fardeaux qu'on traîne dans nos livrets de compte, ben, qu'Allah veuille bien nous regarder avec un regard de rahma. Qu'Allah Rabbul Izza veuille bien accepter un sijda qu'on accomplit, qu'on lève les mains, on demande un peu, ben, qu'Allah accepte. On ne mérite pas l'acceptation. On ne mérite même pas le tawfiq de faire un sijda. Mais Allah nous donne la possibilité. Et Allah est Ghafur Rahim. Dans un verset, il est dit que si Allah, Rabbul Izzah, wala yu'akhidhullahu an-nasa, si Allah, en ce sens, hein, sens du verset, si Allah devait sévir, devait châtier chaque personne, à cause, chaque créature, en fonction de leur péché, il n'y aurait plus une seule créature de ce dunya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute créature d'Allah Azza wa Jal commet des erreurs. Et si pour chaque erreur Allah nous punissait, ben, il n'y aurait plus personne. Si Allah Rabbul Izzah agissait avec nous, comme nous on agit avec les gens, il n'y aurait plus de créatures. Il y a des fois quand quelqu'un te fait du mal, ou il te fait du tort, ou il y a un manquement, ou il t'a fait une promesse et il n'a pas tenu la promesse, quelles que soient les situations, on a beaucoup de mal à se contenir. On lui dit la vérité, on essaie de régler les comptes, on essaie de se venger, on essaie de le faire ressentir son erreur, on attend un tournant pour faire la même chose. Bref, des réactions humaines, avec des êtres humains. Heureusement qu'Allah Azza wa Jal, il est Rahman, il est Rahim, il est clément et miséricordieux. Autrement, je ne serais même pas là en train d'écouter ce majlis. Autrement, je ne serais même pas là en train d'essayer d'expliquer la parole du Prophète sallam. On ne serait même pas à cette masjid en train de se prosterner. Tout ça, c'est tawfiq min Allah. Tout ça, c'est parce qu'Allah Rabbul Izzah a de la pitié et de l'amour pour nous. Parce que la plus belle chose qu'Allah peut accorder à un être humain, c'est quoi? C'est pas la richesse, c'est pas l'argent, c'est pas l'honneur, c'est pas la beauté, c'est la foi, al-iman. Et ensuite, la plus belle, le plus beau cadeau qu'Allah peut accorder à une créature, c'est at-tawfiq, la possibilité d'accomplir de bonnes actions. Donc si Allah nous a donné la foi et Allah nous accepte pour faire les bonnes œuvres, nous sommes les gens les plus comblés à ce moment précis. C'est-à-dire à ce moment-là, au moment où on parle, le nom de chacun d'entre nous, on doit avoir conviction, c'est hadith authentique. Chaque personne présente, son nom sera cité dans les assemblées des malaïka auprès d'Allah Azza wa Jal. Et quel grand honneur que de savoir que mon nom, Riyab, Muhammad, Ishaq, Ibrahim, Abdallah, on a été cité dans l'assemblée des malaïka et qu'Allah a entendu notre nom. Et Allah entend tout. C'est déjà sharaf. C'est déjà un grand honneur de la part d'Allah Azza wa Jal. Chers frères, en islam, on a besoin de travailler notre foi pour atteindre al-ihsan. On avait développé al-ihsan la dernière fois. C'est al-ihsan, c'est ihsan al-amal. C'est le summum, le plus haut degré de iman, de foi, que dans toute situation de ta vie, tu es convaincu qu'Allah te voit, qu'Allah t'observe. Et quand on accomplit de bonnes actions, c'est exactement comme si on est près du trône d'Allah. On sait qu'Allah nous observe et la bonne action, on le fait avec sincérité, oui. Avec khushu', oui. Avec dévotion, c'est bon aussi. Avec bonne intention, c'est bon aussi. Avec amour, barakallahu fik. Ton créateur t'observe et tu essaies de faire le maximum de bonnes choses. Tu essaies de t'appliquer de tes rukou', tu t'appliques de tes sijda. Quand tu lis, tu te concentres sur Ar-Rahman, Ar-Rahim. On sait qu'Allah est clément, miséricordieux, Maliki, Yawmiddin. Allah, c'est le maître du jour de la rétribution. On essaie de ressentir quand on est devant Allah le jour de Qiyam et qu'Allah, c'est le seul qui décide. C'est comme si on est déjà devant lui et on est devant lui. Yaka, na'bud, oh Allah, on t'adore toi tout seul et personne d'autre. Tu es l'objectif de ma vie, oh Allah. وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Oh Allah, on a besoin de quoi que ce soit. C'est vers toi qu'on s'oriente. On lève les mains, on te demande. On n'a besoin de personne. On n'a besoin que de toi. Si tu es avec nous, on a tout. Si tu n'es pas avec nous, on n'a rien. Même si j'ai tout ce qu'il y a de ce dunya. Mes chers frères, tout ça, on essaie de travailler, de faire remonter à la surface quand on entend Al-Fatiha et on fait les actions avec ostentation pour Allah. C'est-à-dire, on fait voir à Allah toute notre ferveur, tout notre amour, toute notre sincérité, toute notre dévotion, toute notre concentration. Aux gens, non. Aux gens, on n'a pas besoin de faire voir. Au contraire, c'est haram. Mais pour Allah, on fait par amour, on fait en sorte qu'Allah soit fier de nous. L'exemple est décalé. C'est comme un enfant de 3 ans, 4 ans qui marche, qui commence à bouger un petit peu. Il va faire tout ce qu'il peut pour faire plaisir à ses parents. Quand il voit que son papa ou sa maman est en train de le regarder, il va s'appliquer à faire des choses. Il va faire un petit peu même l'intéressant. Il va sourire, il va essayer d'attirer l'attention sur lui. L'exemple est décalé, je vous ai dit. Hein? Mais c'est un petit peu comme ça. Quand on est devant Allah, on essaie de faire tout pour qu'Allah soit satisfait de nous à l'instant T, à ce moment-là. Parce qu'avoir un regard de clémence, de rahma de notre Seigneur, Allahu Akbar, ça peut nous ouvrir les portes du dunya du akhirah. Donc le summum du ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, comme si qu'on est devant Allah, Allah en train de nous regarder. Et si on n'arrive pas à développer cette relation d'amour avec notre Seigneur, qui a dit que dans l'islam on ne dit pas que Dieu est amour? Rahman Rahim, c'est plus fort que Dieu est amour. Si on n'arrive pas à développer cette relation, on passe à l'autre degré qui est un petit peu inférieur, mais qui reste quand même le summum de la piété. C'est فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Sache que Allah te voit. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à travailler cette relation d'amour, en tout cas, sache qu'au moment où tu pries, au moment où tu fais ta génuflexion, ton rukou, ton sijda, tes bonnes actions, Allah t'observe. Allah te voit. Allah te surveille, entre guillemets. Et je ne peux pas me permettre de faire quelque chose de mauvais. Ça, c'est pour les bonnes œuvres. Et face au péché, je sais également qu'Allah est là. Allah m'observe. Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur aussi. Je ne peux pas me permettre d'avoir une mauvaise pensée ou d'avoir l'intention de faire telle chose de haram parce qu'Allah est en train de, à ce moment-là, examiner mon cœur. Et c'est ça la grandeur. On essaie de se figurer la grandeur d'Allah, même si en même temps, il y a combien de personnes il y a dans le monde? 8. Si 8 milliards de personnes parlent en même temps, Allah les entend tous. 8 milliards de personnes sont en train de penser à quelque chose. Allah sait exactement ce qu'il y a de leur cœur. Parce que dans le Coran, Allah dit, le verset qu'on a dit tout à l'heure, وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ et dans surah Taha, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Allah sait assir. Assir, c'est ce qui est secret en toi. وَأَخْفَى. Et ce qui est encore plus profond. Ce qu'on essaie de cacher, que personne ne sait, Allah il le sait. يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. De toi, de moi, des 8 milliards de personnes en même temps. Tout ce que nous cachons dans nos cœurs, les 8 milliards de personnes, Allah il sait en même temps. Ça c'est qudrat d'Allah. Ça c'est la puissance d'Allah Azza wa Jal. Un ordinateur, il peut analyser combien de réseaux, combien en même temps. C'est limité. Quand il ne peut plus, il faut mettre des extensions et ainsi de suite. À un moment donné, il y a une limite. Mais Allah, notre Seigneur, au-delà de toute comparaison, Allah, il sait ce qu'il y a dans le cœur de chaque personne, à chaque instant, sans arrêt, sans intermédiaire. Ça, c'est le pouvoir d'Allah, Azza wa Jal. Donc, dans la relation de crainte d'Allah, je ne peux même pas me permettre d'avoir l'intention de lui désobéir, parce que Allah, il observe ce que je suis en train de penser maintenant. Comment est-ce que je peux me permettre de penser à telle chose? Quelqu'un dit, bon, demain, je rentre au lycée à 10h. De Karim, quelle heure on rentre demain? 7h45. Bon, quelqu'un dit, moi je rentre 10h, et dis donc demain tranquille. Ce soir que je dors, je mets mon réveil pour 9h. 9h, je me réveille, je prends mon petit déjeuner, je prends le bus, tac, je vais à l'école, au lycée tranquille. Comme il se lève pas tôt demain, il n'y a pas l'école de bonheur, il a dit, j'ai pas besoin de faire fête demain tranquille. Mais quand cette personne est en train de préparer cette pensée, il doit se dire qu'à ce moment-là, Allah Rabbul Izzah Muttali'a. Allah sait ce que je suis en train de penser. Je ne peux pas me permettre d'avoir ce genre de pensée, de développer ce genre de mauvaise pensée, alors qu'Allah Azza wa Jal voit et connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Ça, c'est une relation qu'on doit créer avec notre Seigneur. L'accomplissement des bonnes œuvres avec amour, l'éloignement du haram avec amour et reconnaissance. Tout ce qu'Allah m'a accordé comme bienfait, comment est-ce que je peux désobéir à Allah? Comment est-ce que je peux me permettre de faire telle chose obscène alors qu'Allah m'a accordé la vue, les oreilles, la possibilité de marcher, la possibilité de raisonner, tout ça Allah m'a accordé. Comment est-ce que je vais le désobéir de la sorte? C'est une relation qu'on a besoin de créer, de forger avec notre Seigneur. Autrement, si on ne fait qu'accomplir de bonnes actions, sans jamais connaître qui est Allah, sans jamais travailler ma relation avec Allah, ça restera des actions vides. Les actions seront accomplies. Auprès d'Allah, c'est fait. Les 5 salats remplis. Les 30 Ramadan, mission accomplie. La zakat, elle est accomplie. Le hajj, c'est fait. Combien de personnes font le hajj sans rien comprendre? Du début jusqu'à la fin, il suit les gens, il suit les groupes. Quand il lève les mains, et ainsi de suite. Il comprend rien. Il connaît les masa'il. Je ne dis pas ça, non. Je ne dis pas qu'il ne connaît pas. Il connaît exactement ce qui est important, ce qui est préférable en état de sacralisation, ce qui annule l'ihram. Il connaît tout. Le fiqh, il connaît. Mais il n'y a aucune relation avec le Seigneur là-dedans. C'est-à-dire, le cœur n'arrive pas à créer une relation de piété, d'amour et de crainte d'Allah. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que c'est par le biais de ses actions, à partir du moment où il y a le socle de taqwa et d'amour pour Allah, ces actions-là vont te propulser. Ces actions-là, ils vont te permettre de monter, de progresser, d'augmenter ta foi, à condition que cette relation d'amour et de crainte d'Allah, elle soit présente. Donc là, on avait conclu le magnifique hadith de Jibril avec Al-Ihsan, la définition du Ihsan, on avait dit que c'est l'objectif à atteindre. On passe ce soir, Inch'Allah, à un autre hadith, le hadith 62 de Riyad al-Salihin, et on va voir que dans ce hadith, c'est à peu près la même chose qu'on essaie de travailler. De travailler au quotidien et de façon permanente la crainte d'Allah Azza wa Jal. An ibn Abbas radiallahu anhuma, قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Je trompe le hadith. Hadith 61. An Abi Dhar radiallahu anhu, wa bi Abd al-Rahman Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhum ajma'in. An رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حديث rapporté par At-Tirmidhi. Chers frères, en islam, ce hadith fait moins d'une ligne sur une page de format A4. Ça fait moins d'une ligne, ça fait trois quarts de ligne à peu près. Ce hadith fait partie, comme tous les hadiths, des jawami' al-kalim, des paroles magique en guillemets, extraordinaire que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de la part d'Allah, des phrases courtes. Ce n'est pas un long discours. Notre prophète n'a pas besoin d'expliquer et de convaincre. Il n'a pas besoin d'utiliser la rhétorique, d'utiliser les thèses, l'antithèse, essayer de convaincre, l'approche psychologique. Il n'a pas besoin de tout ça. Les paroles qu'il prononce, ça vient d'Allah, l'inspiration d'Allah, et c'est des paroles qui sont prononcées par le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole-là, elle dégage une telle lumière qu'elle touche le cœur du croyant qui a iman et qui a l'envie de se rapprocher d'Allah. À partir du moment où on est mukhlis, on est sincère, on a envie de se rapprocher d'Allah, on a envie d'apporter un changement dans notre vie, on est en train de créer un cheminement vers Allah. On est en train de se rapprocher d'Allah, pas un cœur bouché, fermé, pas quelqu'un qui est dans le péché du matin au soir. Pour lui, ça va être beaucoup plus dur, parce qu'il a installé lui-même des barrières entre lui et Allah. Le péché, l'adultère, la drogue, la fornication, la consommation de l'intérêt, le fait d'écouter la musique, faire la bise aux filles, sortir en boîte de nuit, consommer de l'alcool, manque de respect envers les parents, et ainsi de suite. Ces péchés-là, on met des barrières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, quand il y a le Nour qui arrive, il va s'écraser sur ces barrières. C'est une image. Hein? C'est une image, mais qui reflète bien ce que le Prophète a dit, que quand un musulman accomplit un péché, il y a « Nuqtatun Sauda », un point noir sur le cœur. Et si ce croyant ne demande pas pardon à Allah Azza wa Jal, et qu'il accomplit un deuxième péché, il y aura un deuxième point noir sur le cœur. Ce que je suis en train d'expliquer là, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Tout le monde a déjà entendu ce hadith. Mais c'est là un rappel. Ce sont des choses concrètes, réelles. C'est ça qu'on doit mettre en pratique. Il y a des fois, on cherche des grands discours d'islamologues, de grands conférenciers, avec des mots savants, avec des thèses magnifiques. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de amal. On a besoin de changement intérieur. Que je parle en français, en créole, en chimaoré, que je m'exprime bien ou mal, aham shay, c'est que ce soit des paroles que je peux transformer en amal tout de suite. Ça, c'était la méthode d'An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Des paroles simples, faciles à comprendre. Le plus grand sahaba, Abu Bakr, il comprend. Le bédouin qui sort du désert, il arrive là avec son chameau, il ne connaît rien, il est quasiment pas civilisé, il écoute, Allahu Akbar. Il trouve la lumière, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah, il devient min ahsanin nas, il devient parmi les meilleurs des gens. Des paroles simples qui nous permettent de changer notre vie. Donc quand on accomplit un péché, qu'on retienne bien cette règle, ce hadith, un point noir. Si je demande tauba, le point noir, inshallah, est effacé. Mais je demande tauba avec la sincérité, avec regret du péché, et avec l'intention de ne plus accomplir. Imaginez qu'en sortant du lycée, tous mes amis proposent un petit joint. Un petit, pas un XL, un small, peut-être un moins de péché. J'ai accepté, voilà. Puis j'ai vu plein de choses, j'ai ressenti plein de choses. Et puis, j'ai dit, ah là, c'était vraiment pas bien. Je viens à la mosquée, salat al-asr, puis je sais que j'ai fait un péché. Je demande pardon à Allah, mais je sais qu'après Maghrib, mes copains sont là-bas. Et quand je ressors, je les retrouve. Et c'est reparti. Maintenant, ça n'a pas donné autant de joints. S'en fait payer, enfin peut-être s'est fait payer. Mais si, dès le moment où tu demandes pardon, tu sais pertinemment qu'à la prochaine occasion, je vais refaire, le tawbah n'est pas accepté. Le tawbah est accepté à partir du moment où tu as l'intention ferme de ne plus recommencer. Et la meilleure façon pour ne plus recommencer, quand il s'agit de ce genre de péché en relation avec un groupe de gens, c'est de rompre les relations avec les personnes. Si c'est une mauvaise fréquentation, on arrête complètement, même si c'est des musulmans. Et là, ce ne sera pas dans le sens du hadith ou au-delà de trois nuits, tous les actes. Non, non. Parce que là, je ne me suis pas embrouillé avec eux. Je me suis éloigné de personnes qui m'amènent vers le péché. J'ai fait ça pour protéger Himaya, Muhafaza, pour protéger mon iman. On revient. Donc, si vous demandez pardon, le point non s'efface. Entre moi, il reste. Au prochain péché, il y aura un deuxième point. Non. Au troisième, encore. Et comme je dis, combien de péchés on accomplit du matin jusqu'au soir? Ce qui serait grave, c'est qu'à la fin de la journée, le cœur est rempli de points noirs. Et que je cumule les jours, les semaines, les mois, et comment ce cœur devient noir. Et comment rêver? Imaginez qu'un cœur qui reste dans le péché et dans l'insouciance, il attend le prochain Ramadan pour revenir vers le dîn. Ok, tu vas jeûner, tu vas écouter cela tout à l'heure, tu vas faire plein de bonnes choses. Mais le cœur là, il est devenu totalement insensible. Ce qui fait qu'après Ramadan, tu n'as pas istiqama, tu retournes vers le haram, vers les mauvaises habitudes et on abandonne les bonnes choses. Donc, l'importance de travailler le cœur. Dans ce hadith, on a dit le hadith magnifique où le prophète alayhi salat wa salam donne les bases pour la réussite de ce monde et l'au-delà à travers trois actions. Une action du cœur, une action avec les membres et une action en rapport avec les gens. Traduction du hadith, ittaqillaha haythuma kunt. Éprouve la crainte d'Allah. Développe la crainte d'Allah où que tu sois. Quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le contexte, développe toujours la crainte d'Allah. Garde toujours la crainte d'Allah dans ton cœur. On continue. Wa atbi'i sayyi'at al-hasana tamhuha. Et si par inadvertance, traduction approximative, tu accomplis un péché, dans ce cas, empresse-toi d'accomplir une bonne action tout de suite après. Parce que les bonnes actions effacent les péchés. Les bonnes actions annulent les péchés. Et on va expliquer ça après. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure des façons. Essaye d'avoir le meilleur des comportements avec des gens. Donc comme on a dit, ce hadith, il est court, mais celui qui arrive à le mettre en pratique, il aura obtenu le succès dans ce dunya et il aura le succès dans l'au-delà. Trois conseils du prophète alayhi salat wa salam, et c'est la concrétisation du hadith de Jibril qui se conclut par al-ihsan. Parce que ittaqillaha haythu kunt, et la crainte d'Allah tout le temps, en permanence, où que tu sois, ça c'est la concrétisation du ihsan. C'est-à-dire c'est une relation illimitée avec Allah. Quand on dit al-ihsan, an ta'bud Allah kannaka tara, que tu es tout le temps persuadé qu'Allah te voit et t'observe, mais là, également, crains Allah tout le temps, toutes circonstances, c'est-à-dire que la relation entre le cœur et Allah est permanente. La prière, elle dure quelque temps. Le somme, il dure le matin, il termine le maghrib, puis c'est fini. La prière de la nuit, c'est mu'aqqat, un temps limité, ainsi de suite, le hajj, ainsi de suite. Mais la relation que le croyant doit avoir avec Allah en termes d'amour et de crainte, c'est quelque chose qui doit rester en permanence dans le cœur. Jamais quelqu'un peut se dire que quand je suis à la mosquée, je suis à fond dans la spiritualité. Quand je suis sur mon lieu de travail, ben je suis médecin. Quand je suis à la mosquée, je suis croyant, musulman. Dans mon travail, je suis médecin. Dans mon travail, je suis commerçant. Ou alors au lycée, je suis lycéen. Non, on est mu'min et lycéen. On est musulman, croyant et médecin, et commerçant, et artisan, et chauffeur, et ce qu'on veut. Mais croyant avant tout. C'est-à-dire qu'en aucun cas, je peux me dire qu'il y a un comportement dans la masjid, dans la salah, et à l'extérieur, c'est le comportement du monde dans lequel je vais. Abadan. Certes, il y a des règles qui sont différentes, mais les bases de croyance, de iman, de protection de notre corps contre les péchés, ça reste exactement le même. Alors, on développe, ça veut dire quoi ? Ittaqillah haythuma kunt, ay, ijtanib al-haram. Éloigne-toi du haram, premièrement, et accomplis ce qu'Allah Rabbul Izzah t'a ordonné d'accomplir. Parce que la taqwa, c'est quelque chose qu'on ressent avec le cœur, et ça se traduira par les bonnes œuvres, et ça se traduira également par l'abstinence totale des mauvaises actions du haram. Et ces bonnes actions, je les accomplis avec ikhlas, avec sincérité, wattiba'an linnabi sallallahu alayhi wa sallam, et en suivant l'enseignement prophétique. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne action ? C'est une action que j'accomplis avec sincérité et que j'accomplis en suivant la sunna. Pas une action que j'invente ou autre chose. Que j'accomplis en suivant la sunna de la prophète alayhi salatu wa salam. Et l'abandon des péchés, c'est s'éloigner du péché à la ilm. Que je m'éloigne de telle chose qui est haram parce que je sais qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas cette mauvaise action, ce péché. Et que ce péché-là va me rapprocher de la colère d'Allah et du Jahannam, et je ne veux pas ça. C'est-à-dire avec conviction. Et comme on l'a dit, en aucun cas non plus un croyant peut se dire que ben, quand je vais en vacances, par exemple, j'ai droit à quelques écarts. Quand je vais en vacances, ben, khalas, en termes de salah, je ne fais pas. Ou je vais retarder les prières. Abadan. Je ne parle pas des maslas de Moussafi, d'autres choses. Non. Mais que la personne croit qu'en vacances, ben, on peut lever le pied. D'accord ? Si tu ne fais pas Fajr, ça va. Si tu ne fais pas Isha, ce n'est pas grave. Abadan. Parce que notre vie, elle est pour Allah. Le temps, Allah nous l'a donné en amana, en dépôt. Et on sera questionné à ce propos. La jeunesse, Allah nous l'a accordé en dépôt. On sera questionné à ce propos. Le ilm, la connaissance. Et quand on dit le ilm, ce n'est pas uniquement le ilm, le grand fundi, le grand alim. À chaque niveau de personne, ce que tu as comme quota de ilm, qu'est-ce que tu en as fait ? Ça fait partie des cinq grandes questions qui seront demandées à chaque personne le jour de Qiyama. Personne ne bougera le jour de Qiyama, ne passera à une autre étape sans qu'il n'ait à répondre ces cinq questions. Et entre autres, les biens qu'Allah t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait ? Et le corps qu'Allah t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait ? C'est pas que il y a des fois où je suis bien et des fois où je ne suis pas bien de mon dîn. Dire que sache que même si tu n'es pas devant, dans une mosquée, sur un tapis de prière, en tout état de cause, les bienfaits, là, tu les vis au quotidien. Ta santé, c'est au quotidien. C'est pas que là, je vais en vacances, donc je n'ai pas besoin de ma santé. Non. La jeunesse que tu as, c'est tout le temps. La santé, on a dit. Le temps, le ilm, les biens, tu as, c'est avec toi. Ben, sache que la façon dont tu vas les utiliser, ce sera déjà des questions le jour de Qiyama. Ce qui veut dire qu'on doit être en état d'éveil en permanence. Le croyant n'est jamais dans l'insouciance, n'est jamais dans le rafla. C'est d'ailleurs pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam rapporte ce hadith de lequel Allah Rabbul Izzah dit que celui qui a, hadith très connu, celui qui est dans ce monde vit avec insouciance, de le rafla. Il n'a pas peur de rien. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'obligation. Allah Rabbul Izzah lui garantit la crainte le jour de Qiyama. Alors que celui qui vit dans ce dunya avec la crainte d'Allah, chaque fois qu'il va dire quelque chose, il réfléchit. Est-ce que je ne vais pas dire quelque chose de mauvais ? Est-ce qu'Allah ne sera pas mécontent de moi ? Avant de prendre une décision, avant de faire une action, il réfléchit. Est-ce que je suis dans le halal ou dans le haram ? Mais cette personne qui éprouve la crainte d'Allah en permanence, Allah Azza wa Jalla a garanti à cette personne l'amn, la tranquillité le jour de Qiyam. Donc que le croyant reste toujours en état d'éveil pour faire les bonnes œuvres et pour s'éloigner du haram. Et après, il y a des commentaires un peu longs, on va passer un peu dessus. Les priorités dans les bonnes actions, ce sont bien sûr les piliers. Et parmi les piliers, la salah qui est le pilier de la religion, qui est le pilier le plus important, parce que c'est le pilier qui revient le plus souvent. Donc faire en sorte d'accomplir déjà nos prières comme il le faut, à l'heure, et développer la concentration, la sincérité et la dévotion pour Allah, Azza wa Jal, tout en sachant que Ali Khadir Poissam dit qu'Allah Rabbul Izza dit que jamais un serviteur ne saura se rapprocher de lui, c'est-à-dire d'Allah, d'une meilleure façon que par les choses qu'Allah a rendues obligatoires. Ça, c'est la base. Et à travers la salat et le jeûne, on garde ces deux exemples, ce sont les actions qui reviennent le plus souvent. Je dois éduquer mon âme, je dois apprendre c'est quoi me soumettre à Allah en accomplissant des actions. C'est-à-dire que la génuflexion, elle se fait comme ça, le recours. Et je reste en état de recours pour Allah. Je me mets en sijda pour Allah. Je reste debout même si la lecture est longue pour Allah. Je fais telle chose pour Allah. La tarawih, je reste debout pour Allah. Et j'apprends à mon âme également c'est quoi s'arrêter, c'est quoi dire non, c'est quoi refuser pour Allah. Je ne mange pas parce que je suis en état de jeûne, je le fais pour Allah. Je suis en train de prier, j'entends un bruit, je n'ai pas le droit de regarder pour Allah. Je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas le droit de faire autre chose, je me contrôle pour Allah. Et l'aboutissement de cette éducation, qui est une éducation spirituelle, c'est que dans notre vie de tous les jours, ces actions nous amènent vers la taqwa. Un contrôle permanent de ses yeux, de son regard, de ce qu'on écoute, de ce qu'on va dire, même de notre pensée également. Voyez comment les choses se rejoignent. Une connexion directe avec Allah par le biais de la salat par exemple, et l'objectif c'est qu'avec la salat, ta connexion elle reste permanente avec ton Seigneur. On essaie d'avancer, idéalement clôturer le hadith. On est à 31 minutes basse aujourd'hui, on essaie de terminer à 40 minutes. Deuxième, bien sûr, il y a possibilité de développer un peu plus, mais on essaie de faire un hadith par lundi, au moins on avance. Sauf hadith Jibril, ça c'était exceptionnel. C'est-à-dire, si tu accomplis un péché, empresse-toi d'accomplir une bonne action. Qu'on retienne cette règle. Si tu sais que tu as fait une gaffe, tu as fait un péché, quelle doit être ta réaction? C'est quoi la réaction en premier? Attends, je bois un petit peu d'eau. Comment? Comment? La crainte, je retiens, quoi d'autre? Le regret, barakallahu fik. Tauba, quoi d'autre? Se remettre en question, barakallahu fik, tout ça c'est bon. Première réaction, prise de conscience. Prise de conscience que ce que je fais, c'est mal. Parce que tant que je n'ai pas réalisé que là je viens de voir une copine, je lui ai fait la bise. Ce n'est pas un discours d'extrémiste, hein? C'est un discours de mu'min. Le musulman ne fait pas la bise. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas de nécessité. On dit bonjour. C'est amplement suffisant. Ou alors, enfin, puis je me focalise pas sur les péchés, hein, mais c'est ce qui me vient à l'esprit parce que c'est les péchés les plus fréquents. Parfois même, des gens qui sortent de la prière, j'ai déjà donné cet exemple, ici je n'en ai pas vu, mais dans d'autres quartiers, il sort de la salat, il va à la boulangerie, il fait la bise à caissière. Et ça, fajr. Il s'est levé, il est parti à la prière de Fajr, 5 heures du matin. Il fait une bonne action parce qu'il connaît la question, il fait un bisou. Ça rime à quoi? Là, tu as fait une bonne action, mais il n'y a pas de prise de conscience que c'est un péché. Ça, c'est le plus grave. Ça, c'est al-jahl, l'ignorance. La base, c'est al-ilm, connaître. La connaissance du halal et du haram. Ça, c'est important. Le grand danger, le prophète alayhi salatu wasalam dit que la personne qui déconsidère le petit péché, c'est exactement comme des gens qui arrivent dans une localité et qui demandent à chaque personne, chacun va chercher une brindille pour allumer un feu. La personne amène un petit morceau de bois. On peut se dire que ça n'est pas loin que ça, ben, mon frère. Mais chaque personne qui amène une brindille, en finalité, ça va faire un brasier. Et avec ça, il y a les conséquences qu'on connaît. Donc, en aucun cas, certes, le chiffre le couvre sans le moindre doute, mais en aucun cas négliger. Nous, on essaie de se focaliser sur les péchés qu'on accomplit quand on se réveille le matin. Quand tu te lèves, tu commences avec tes péchés. On doit essayer d'analyser chaque portion d'heure de notre journée et voir à travers ces portions d'heure quelles sont mes erreurs qui se répètent. Il n'y a rien de plus grave. Il n'y a rien de plus grave que les péchés qui se répètent. Parce qu'à un moment donné, Shaytan alayhi la'natullah, il finit par nous endormir et nous faire persuader que ce qu'on accomplit, c'est peut-être des choses, ça peut aller. Ou alors, il va te faire comprendre que, de toute façon, Allah ne va pas pardonner ça. En aucun cas, déconsidérer les péchés. Hada. On revient. Alors, la première réaction, c'est ilm, prise de conscience. Tant qu'on n'est pas conscient que c'est mal, on ne pourra pas continuer, on ne pourra pas réellement enclencher le mécanisme de la seconde étape qui a été cité par le frère, les remords, an-nadam. On avait parlé de Tawbatul Nasuha à plusieurs reprises, de Tarawih et de d'autres circonstances. An-nadam, les remords, c'est extrêmement important parce que le Tawba, il va commencer, il va démarrer du cœur. C'est du cœur que la demande de pardon, elle va commencer. Parce que le Tawba fait avec la langue, s'il n'est pas accompagné du désir de changement avec le cœur, ça restera une parole. Ça, les ulama, rahimahullah, disent également que, et ça c'est une parole qui parfois peut faire sourire, « Hatta al-istighfar yahtaj ila istighfar ». Il y a des gens, ils prennent un sabbah, un tasbih, je ne parle pas pour le cheikh, hein, ils disent « Astaghfirullah, 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 astaghfirullah ». Mais ils disent « Astaghfirullah », ils n'imaginent même pas que quand tu dis « Astaghfirullah », tu te mets dans une position inférieure, on se soumet à Allah, on reconnaît notre passif, notre cumul de péchés, et on a besoin de notre Seigneur qui est au-dessus de nous pour qu'il pardonne ses erreurs. Et le dire de façon, avec cette insouciance, dit que ça aussi, ça nécessite un tawba, une demande, un retour vers Allah Azza wa Jal. Donc, à partir du moment où il y a prise de conscience du péché, ça nous amènera vers la deuxième étape, an-nadam. Tant que je ne suis pas conscient que ce que j'ai fait, c'est grave, ben, je ne vais pas avoir les remords. Donc, le mécanisme, j'utilise des termes comme ça, hein, le mécanisme du tawbatul nasuha ne va pas se mettre en marche, ne va pas être enclenché. Donc, la deuxième étape, c'est ash-shu'ur, an-nadam, le remords. Ça, c'est la troisième étape. Les remords. Également, ash-shu'ur, ressentir bi-anna Allah muttali'un alayk, ressentir qu'Allah t'observe, qu'Allah est au-dessus de toi, et qu'au moment où tu as fait ce péché, Allah t'a vu, et que les malaïkas ont inscrit le péché. Et quand? Et que les malaïkas, les groupes d'anges qui se relaient le matin et le soir, on a vu hadith qu'il y a deux groupes d'anges, ils vont rapporter ce péché. Et quatrièmement, il y a cinq, hein, quatrièmement, al-ard, la terre où on accomplit le péché, s'apprête à témoigner contre nous le jour de Qiyama. Et cinquièmement, c'est quoi le cinquième conséquence? Le corps de l'être humain témoignera contre nous le jour de Qiyama à propos des péchés. Donc, une prise de conscience des conséquences de la désobéissance du péché. Et là, à partir de ce moment-là, on pourra, on éprouve la crainte là tout de suite. Et là, on pourra vraiment exprimer, faire le tawba oralement et demander tawbatul nasuha avec ces conditions, d'accord, les remords, l'intention de ne plus recommencer et faire en sorte de ne plus s'éloigner des asbab, s'éloigner de tout ce qui peut nous pousser, de ce qui peut nous ramener vers les péchés. Et avec ça, on va greffer ce qu'on vient d'apprendre, l'accomplissement d'une bonne action. Parce que l'accomplissement de la bonne action va, inshallah, effacer le péché. Ça peut être une sadaqa, ça peut être également un tasbih. Quelqu'un va lire Salat al-Nabi ou va essayer de lire quelques paroles, lui un peu le Coran, et il dit que, oh Allah, j'essaie de faire cette bonne action pour compléter le tawbah que j'ai accompli. Donc, dans cette deuxième partie du hadith, le prophète dit wa atbi'i sayyi'ata al-hasana tamhuha. Donc, ça, c'est le premier conseil, c'est en rapport avec le cœur. Le deuxième conseil, c'est en rapport avec les jawarih, les actions qu'on accomplit. Quand c'est un péché, ben je sais comment remédier, comment me faire pardonner ce péché. Et enfin, troisième point, si je le retrouve, bismillah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Essayez d'avoir le meilleur comportement avec les gens. Les ulama, rahimahumullah, les muhadithin expliquent que nous voyons que notre dîn est kamil, il y a un tawazun, il y a un équilibre parfait entre intérieur, taqwa, entre les actions qu'on accomplit et les relations avec les autres. Et en aucun cas, il doit y avoir un décalage. Si par exemple, quelqu'un dit que moi, j'ai la crainte d'Allah et la moindre dans mon cœur, baisse. Et la personne ne fait pas aucune action. Ne fait pas salat, il ne jeûne pas rien. Est-ce que ce croyant est accepté par Allah? Non. Parce que la foi, définition de l'iman, est i'tiqad, bil-qalb, croyance dans le cœur. Qawl bil-lisan, ce qu'on prononce, shahada, wa amal bil-jawarih. Et l'accomplissement des bonnes œuvres par les membres. Tout ça, ça concrétise le iman. Donc, quelqu'un qui dit juste que mon cœur est propre, j'ai la crainte d'Allah dans mon cœur et c'est suffisant, aucunement, ce n'est pas suffisant. Il faut l'accomplissement de bonnes actions. Deuxième étape, enfin, deuxième cas de figure, une personne dit, une personne, il fait de bonnes actions, mais il n'a aucune crainte d'Allah. Ça, c'était un peu le cas de figure qu'on expliquait tout à l'heure. Quelqu'un, il fait plein de bonnes œuvres, plein de bonnes choses, mais il ne développe pas de crainte d'Allah. C'est-à-dire que là, je suis dans la masjid, je vais faire plein de bonnes choses. En sortant, je retourne vers les péchés du quotidien. Et je vais retourner vers le haram normalement. Cette personne ne va pas avancer. Parce que les actions sont là, mais la taqwa, la crainte d'Allah, n'y est pas. Autre cas de figure, une personne accomplit beaucoup de bonnes actions, mais la personne a un mauvais comportement dans la société. Un mauvais akhlaq. La manière de parler, la manière d'agir avec ses parents, avec ses frères, sœurs, avec ses voisins, et ainsi de suite, avec ses collègues de travail, c'est-à-dire, umoumane, dans la société, ben, cette personne-là n'est pas non plus dans le droit chemin. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a rappelé que le jour de Qiyam, hadith, trikuni, hadith al-muflis, il y a des gens qui se présentent devant le tribunal d'Allah avec hajj, umrah, zakat, sadaqa, plein de bonnes choses, mais il a insulté, il a manqué de respect aux gens, il a calomnié des personnes, il a accusé, il a fait du tort. Allah Rabbul Izza appellera tous les opprimés qui vont reprendre ces bonnes actions. Natija, résultat, tu as fait plein de bonnes choses, mais comme tu as fait du tort aux gens, le résultat final, ce n'est pas ici, c'est là-haut. Le résultat final, ce n'est pas ce que les gens vont dire, lui c'est quelqu'un de bien, regarde comment il fait de bonnes choses. Non, c'est comment est-ce qu'Allah t'accepte ou ne t'accepte pas. Yawmul Hisab, le jour des comptes. Hada. Ou autre cas de figure, et ça c'est des choses qu'on retrouve un peu dans la société, les gens qui disent que voilà, moi le plus important c'est que je suis bien avec tout le monde. Je souris, je parle bien, excellent comportement, tu as besoin de moi, je suis là. Même quelqu'un ayant de l'ennui financièrement, je peux aider, mashallah, une crème d'homme. Mais il ne vient jamais à la mosquée. Il ne s'intéresse pas du tout aux a'mal saliha. Pour lui, il n'y a aucun intérêt à se réveiller 4h30 du matin pour faire la prière. Ce n'est pas nécessaire. Il va se dire que du moment que notre relation avec Allah est sincère, avec les gens, il est bon, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Tout ça, c'est des waswasa, des insufflations du diable de Shaitan. Le juste milieu, la pratique agréée, acceptée par Allah, c'est crainte d'Allah, accomplissement de bonnes actions et en même temps bon comportement, khuluqun hasan, bon comportement avec les gens. Et de cette façon, nous serons inshallah fi ala sirat, sur le droit chemin, sirat mustaqim. On va s'arrêter à l'heure, inshallah. Donc on a retenu ce soir l'important de développer la crainte d'Allah, une relation permanente avec Allah, une relation d'amour et de crainte. On a intégré l'importance d'accomplir de bonnes actions, qui est la manifestation de cette crainte, de cet amour d'Allah, et l'importance de s'éloigner des péchés. Et au cas où, s'il nous arrive, et ça nous arrive de faire des péchés, on a vu les 4 ou 5 étapes pour arriver vers le tawbatun nasuha et l'accomplissement des bonnes actions. Ça nous aide également à obtenir le pardon d'Allah. Et on a vu qu'il est essentiel pour avoir une foi complète d'avoir le meilleur des akhlaq, le meilleur des comportements avec son prochain. Autrement, on n'est pas sur le hadi, sur le chemin tracé par le prophète alayhi salatu wassalam, qui était kan khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était comme le Coran, dans sa relation avec Allah, dans la relation avec sa famille, avec ses proches, dans la mosquée, à l'extérieur, avec les croyants, avec ceux qui n'avaient pas la foi aussi. C'était le meilleur des hommes qu'Allah nous accepte, d'un tawfiq, de mettre en pratique, de comprendre et de faire vivre. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin.